Salut, c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, green, meuf et féministe.
Ça va piquer.
Ça va gratter.
On parle de l'actu,
on fait des reportages,
on dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte.
On prend la parole
et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonjour et bienvenue à vous dans la revanche des hérissons. Nous sommes ravis d'être en direct dans les studios de Jet FM pour commencer ce long mois de novembre. Ce n'est pas que le mois de novembre soit particulièrement plus long que les autres, il est d'ailleurs plus court que le mois d'octobre, d'une journée et une heure. Ah oui, oui, on a changé d'heure ce week-end. Alors pour info, les personnes qui pensaient tranquillement écouter la quotidienne en croyant qu'il était 18h, vous avez une heure d'avance et vous avez l'immense chance de découvrir en ce moment même la merveilleuse émission féministe et transpédéguine de Jet FM, La Revanche des Hérissons. Bienvenue à vous. Donc non, le mois de novembre n'est pas plus long. Mais il annonce plusieurs mois de froid et de nuit que les pulls, les plats chauds, les cafés renversés d'hiver ne suffisent pas toujours à compenser. Pour ma part, j'ai l'impression chaque année que le mois de novembre se termine seulement fin mars avec le retour des pâquerettes. Mais, pour débuter cette dure saison, je suis hyper heureuse d'être en crew dans les studios de Jet FM. On est donc 7 aujourd'hui, 3 en plateau et 4 en technique. Alors, pour les personnes qui nous écoutent en direct, aujourd'hui c'est aussi la fête des mortes et pour ma part cette année il y en a plusieurs que je veux célébrer. Le cœur gros d'amour, de tristesse et de force, je pense à elles et à leurs survivantes. Cette émission elle est pour vous. Car oui, cette émission malgré le froid, malgré la mort, on la souhaite toujours dynamique et enjouée. On va donc enfin vous parler de jeu. En effet, pour les ou la personne qui nous écoute assidûment, nous avions déjà fait en janvier dernier une émission autour des jeux. On avait alors réalisé un micro-trottoir, auprès de nos amis en fait, et à distance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde sur les trottoirs, même si on nous avait libéré quelques jours pour aller faire des emplettes de Noël et continuer à faire rouler le cacapitalisme. Et puis dans cette émission, on avait joué aussi. Il y avait des trucs quand même qu'on avait encore envie de partager avec vous sur le sujet, des témoignages particulièrement. De 3 personnes pour qui les jeux en société, ça fait sens. Du coup, pour ça, on a croisé 2 interviews. Celui de Claire, rôliste, qui fait des jeux de rôle. Et celui de Runi et M, qui propose, notamment au sein du Bocal, c'est un local autogéré et TPGB à Rennes, des après-midi ou soirées jeux. On a pris le parti de construire ces témoignages autour de 3 axes et 3 montages. Tout d'abord, le jeu comme lieu d'apprentissage et outil d'organisation collective. Ensuite, comment le jeu travaille les représentations sociales, on va dire ça comme ça. Et enfin, le troisième montage, ce sera le jeu comme lubrifiant social. Mais qu'est-ce donc un lubrifiant social ?
Un lubrifiant social, c'est dans ce contexte-là, c'est se servir du jeu pour entrer dans un espace et que tout se passe bien, que ça glisse.
Que ça glisse, merci. Avant de lancer le premier montage, comme pour la première émission sur les jeux et comme on a essayé de le faire lors de notre émission de rentrée de début octobre mais qu'on n'a pas réussi parce qu'il y a eu un petit problème technique, on vous propose de jouer. Le principe est simple, c'est un jeu interactif. On vous propose de nous envoyer une carte postale avec au choix, premièrement, une liste de 5 mots à placer dans la prochaine émission, que vous nous enverrez donc sur la carte postale, ou vous avez aussi la possibilité de nous envoyer une blague. Bon, Il n'y a rien à gagner, sauf peut-être éventuellement, enfin j'en ai pas discuté avec les camarades, mais une dédicace. D'ailleurs, c'est pas vraiment un jeu, c'est juste qu'on veut recevoir des cartes postales, en fait. Alors l'adresse, c'est La Revanche des Hérissons, à Jet FM, 11 rue de Dijon, D-I-J-O-N, bâtiment Le Grand B, B la lettre B, 44 800 Saint-Herblain. En parlant de blagues, je crois qu'on en a... On en a une en technique.
Oui, alors c'est pas vraiment une blague, on va dire c'est plutôt une petite anecdote. Alors hier, j'étais avec une copine et elle m'a dit, mais moi, enfin en fait, je lui ai dit ok boomer, un truc comme ça. Et elle comprenait, elle m'a dit je sais pas c'est quoi boomer. Et du coup, je lui expliquais, on a été plusieurs à essayer d'expliquer ce que c'était qu'un boomer. C'est-à-dire une personne qui serait née à peu près pendant le baby boom. Et qui dirait des phrases du style « c'était mieux avant » ou des phrases de «
on peut plus rien
dire ». On peut plus rien dire, voilà, ce genre de choses. Voilà, et en fait la copine elle était là « ah mais moi je croyais que les boomers c'était les gens comme nous qui faisaient des booms ». Voilà, c'est tout.
Elle était merveilleuse cette copine.
On dira pas son nom.
Merci beaucoup. Non, on dit pas nos prénoms d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on est donc prêt et prête maintenant à lancer notre gros dossier sur les jeux en société. Avant ça, je voulais quand même prévenir que, et ça c'est ma faute, le son est un peu pourri. Voilà, j'ai mal pris les sons.
La revanche des hérissons.
Gros dossier.
Le jeu de rôle, bah, c'est un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros qu'on avait dans les années 80-90. Les livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que tu commences une histoire et en fait tu as des choix à l'intérieur de cette histoire. Tu peux décider de faire telle action qui va t'amener à telle page ou telle action qui va t'amener à telle page. Là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est en live, en fait, avec des personnes réelles. T'as un maître du jeu qui te raconte une histoire. Et t'as des personnages autour de la table, des vraies personnes, qui sont des personnages joueurs, des PJ, comme on appelle ça, qui, eux, vont pouvoir décider d'agir, en fait, sur cette histoire. De faire une action A ou une action B.
Qu'est-ce que je vais faire de mes verres, maintenant ?
En fait, je peux déjà acheter celle-là. Incroyable, je vais acheter celle-là. Je l'ai pas vu, je peux l'acheter.
Je pense vraiment que c'est des endroits d'apprentissage enfin, incroyables, quoi. Moi, je pense que j'ai un meilleur esprit mathématique depuis que je compte les points, quoi. Enfin, clairement, franchement. Et plein de trucs, enfin... Enfin, moi, je trouve que ça m'apprend des trucs en permanence, par exemple, quoi.
1, 2, 3, 4, 5. Oui, 1, 2, 3. Super.
Moi, j'ai fait du théâtre. J'adore le théâtre. Et ça m'a permis, en fait, de retrouver des mécanismes de théâtre pour le jeu de rôle. Parce que du coup, tu incarnes un personnage. Donc, tu prends, en fait, à chaque fois que tu parles pour le personnage. Donc, tu peux prendre une grosse voix si tu fais, justement, quelqu'un d'un petit peu ténébreux. Tu vois, il y a vraiment un truc qui, d'un petit peu comme ça qui peut, toi aussi, te permettre d'improviser. Aussi, au niveau de l'improvisation, quand tu dois discuter avec des gens... Et qu'il y a quelque chose qui se passe ou quoi que ce soit, juste de pas rester en fait complètement fermé, de dire ah je sais pas comment réagir et tout. Hop, comme ça, enfin tu vois, ça permet d'avoir certains réflexes aussi dans la vraie vie que tu peux justement que tu t'es entraîné en fait à avoir dans le jeu de rôle. Parce que des fois, il faut réagir très vite dans le jeu de rôle.
Enfin, il y a aussi des jeux qui sont clairement... Enfin, il y a quelques jeux maintenant qui sont clairement en plus je sais pas, vouloir être dans la coopération, de s'organiser, de gérer entre nous. Et des jeux que je trouve... Il y en a certains, je trouve, qui sont bien faits pour ça. Et du coup, bah, en vrai, moi, une utopie que je peux avoir d'un monde plus chouette et où... on fait plus ces choses ensemble, bah en fait le jeu c'est un espace d'expérimentation en fait aussi.
Ouais. École.
École en deux. Et là je suis en hésitation entre numéro, cycle, parce qu'il y a des cycles à l'école, et génie, parce que des fois, il y a des génies à l'école.
Ou noir, parce que t'as le tableau noir.
Ouais, mais ça, sardine, j'y crois pas trop.
Il y a des sardines à la cantine.
Non, là, tu rêves.
C'est là que c'est hyper important, en fait, le travail d'équipe. Parce que ça, c'est un truc hyper important dans le jeu de rôle. Enfin, en tout cas, dans la majorité des jeux de rôle, c'est... Enfin, là, je fais des grosses généralisations, mais il y a plein de jeux de rôle très différents, où il y a même des jeux de rôle où tu joues contre les autres joueurs. Hein. Là, je pars du principe qu'on est tous ensemble, mmh, dans la même équipe, et qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Mmh. Et du coup, là, il y a vraiment toute une partie un peu concertation. Bon, ok, les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Attends, moi, j'ai ce sort-là qui peut être utile. Ouais, attends, mais moi, je peux faire ça. Moi, je vais passer derrière, j'ai un arc. Ça aussi. Après, il y a vraiment toute une question de stratégie. Et tout ça avec les membres de ton équipe. Mmh. Selon ce que les gens peuvent faire dans ton équipe. Et le fait d'avoir donc plusieurs personnes qui jouent et qui ont des profils différents, eh ben, c'est vachement intéressant, du coup.
Mmh. Ouais, puis en plus, je trouve que dans les jeux coopératifs, ça vient clairement travailler sur ce qu'on essaie de pouvoir mettre en place dans nos vies, dans nos communautés, tout ça. Et que... Enfin... je sais pas comment dire, mais... je trouve que ça vient aussi parce que ça se dit coopératif, mais ce qui est mis en place ne permet pas forcément que tout le monde participe à la même hauteur, que tout le monde se sente bien à l'aise, tout ça. Du coup, ça demande aussi de parler de en fait, comment on se répartit, je sais pas, la parole, comment, parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui prenne plus de place, que c'est plus facile pour elle de parler, ou que le raisonnement va plus vite ou machin, bah tu peux vite te sentir écrasé alors que c'est soi-disant un jeu coopératif, quoi. Mmh. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça vient pointer des trucs, les limites du jeu coopératif tel qu'il est présenté, et que du coup c'est pas si simple que ça, en fait, la coopération, enfin, de faire ensemble, quoi.
C'est que en fait on est tous dans le même bateau, on doit tous survivre, en fait, d'une manière ou d'une autre, enfin survivre, ou en tout cas, enfin, résoudre une énigme, ou sortir d'une grotte, ou enfin bref, t'as toujours un truc, t'as toujours un problème à résoudre, en fait, avec tes coéquipiers, et comme on est tous dans le même bateau, faut qu'on s'entraide. Et ça, tu peux pas le faire si vous tirez dans les pattes et qu'il y en a un qui prend le dessus ou qui fait le chef, et les autres sont obligés de suivre, et au final tu passes juste pas un bon moment. Pour moi, le jeu doit rester fun, quel que soit le jeu. Et que ça doit être, en fait, une espèce d'ouverture, si tu veux. Enfin, c'est hyper imagé, mais sur un autre monde, où tu te coupes de ce qui se passe, en fait, dans ta vie réelle, et tu vis, en fait, une autre aventure. Pour moi, c'est ça, en fait, ma vision du jeu de rôle en particulier. C'est pas quelque chose où t'es censé te faire du mal, t'es censé, au contraire, passer un bon moment, vivre des aventures extraordinaires avec des gens chouettes, et où tu sors de là et t'as juste la banane, quoi, parce que t'as juste vécu un truc chouette. Le jeu de rôle, c'est un univers totalement fantaisiste, où on s'entraide. La vraie vie, c'est la vraie vie où tu t'entraides pas forcément, enfin les gens s'entraident pas forcément, quoi. Enfin, après, encore une fois, c'est des grosses généralités, parce que tu peux aussi avoir des jeux de rôle où le but du jeu, c'est juste de faire du fric, et voilà, quoi.
Ouais, et puis, mine de rien, comme il y a beaucoup de jeux qui ont des représentations qui sont quand même clairement problématiques, ben, j'ai l'impression que de aussi proposer ces moments-là, en réfléchissant aussi à qu'est-ce qu'on a envie de proposer comme jeu, ça fait que, enfin, moi, j'ai l'impression que ça va permettre à plus de personnes de pouvoir venir. Parce que, je sais pas, si jamais dans un jeu, il y a un truc, enfin, il y a une carte, j'en sais rien, qui serait sexiste, ou j'en sais rien, transphobe, ou grossophobe, ou j'en sais rien, enfin, des trucs comme ça, enfin, c'est sûr que nous, on l'enlèverait, quoi. Enfin, c'est pas du tout un truc qu'on a envie qu'il apparaisse, quoi. Ou je sais qu'il y a des jeux aussi où il y a des blagues sur, des blagues sur le corps, sur le genre, sur la tête que t'as, sur j'en sais rien, enfin sur les individus en tant que tels. Et du coup, c'est sûr que ces jeux-là, ça a pas leur place dans nos espaces, quoi. Et du coup, c'est aussi, ouais, comment réfléchir, enfin comment on propose de jouer à des jeux, comment on propose aussi de pouvoir les customiser, comment on propose aussi de discuter de tous ces jeux, comment on propose de revoir l'univers, enfin l'histoire, enfin, et que tout ça c'est aussi politique, quoi.
Rebonjour, vous êtes toujours sur la Revanche des Hérissons 91.2 sur Jet FM à Nantes et on vient d'écouter un premier montage sur deux interviews autour de des jeux et du coup de jeux différents, les jeux de rôle et les jeux de société. Mais on a essayé de montrer ici qu'il y avait des liens assez forts et notamment autour de cette idée que on apprend beaucoup à travers les jeux. Et moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la première chose que j'apprends quand je joue, c'est j'apprends sur moi. J'ai appris en fait au fur et à mesure des jeux. Merci. Ouais, je parlais pas au milieu. J'ai appris au fur et à mesure des jeux que j'aimais pas du tout, mais du tout la compète. J'en suis allergique. Je sais pas si vous, c'est des choses qui font écho.
Vas-y. Moi, c'est pas que j'aime pas la compète, mais il y a un truc où effectivement, je joue et souvent je perds en fait, parce que tout ce qui est jeu de stratégie et tout, je suis un peu nulle. Mais du coup, ça me fait marrer. Et je crois que effectivement, on apprend sur soi et aussi sur les personnes avec lesquelles on joue.
Oui, là récemment j'ai fait des jeux avec des amis qui sont, j'allais dire, pas forcément habitués à jouer, sauf à la belote et au tarot, donc un peu compète. Et j'ai eu du mal à transmettre que moi ça me mettait assez mal à l'aise. Ceci dit, et ça rejoint ce que disait Runi dans l'interview, je trouve que ça prépare bien à apprendre à faire ensemble. C'est-à-dire que je trouvais que cette exercice de jeu, en fait, on n'est pas hors de la vie, quoi. On est dedans et là, les personnalités ou certaines parties de nos personnalités ressortent et il y a des choses qui, moi, grincent. Voilà, la compétition, ça grince. Et du coup, ça révèle un peu les problématiques et ça permet aussi, je trouve, à travers le jeu de les dépasser, quoi. J'ai pu dire, en fait, les copines, j'aime pas du tout quand vous arrêtez pas de dire « Yeah, j'ai gagné !» Moi, ça m'est insupportable et je sais pas, ça a permis de bouger un peu des choses dans nos pratiques. Voilà.
Ouais. Et pour compléter ce que tu disais, le camarade parle des jeux coopératifs et c'est vrai que c'est de type de jeu qui a beaucoup, beaucoup le vent en poupe où du coup, on a l'impression que toute compétition est abolie, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, ça, ce que j'aime, moi en tout cas, ce que j'aime dans les jeux coopératifs, quand c'est des jeux qui se jouent à la parlante, enfin où on parle beaucoup, c'est que du coup, c'est comment laisser la place aux personnes qui peut-être sont moins à l'aise à élaborer, construire de la stratégie. Enfin, comment laisser l'autre jouer. Et enfin, je pense à un jeu en particulier, Pandémie, auquel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Et c'est vrai que quand on connaît bien le jeu et quand on a l'habitude de jouer avec des personnes, c'est très très fluide. Et du coup, comment est-ce que quand on invite d'autres personnes à jouer, eh ben, on faut un peu déconstruire ça, démailloter un peu la fluidité qu'il peut y avoir entre une personne en particulier. Salut Camille. Et du coup, pour le laisser rentrer dans le jeu et faire en sorte que tout le monde ait sa voix au chapitre. Je trouve que c'est assez bien dit la façon dont elle explique que c'est pas dénué de tout esprit de compétition ou de... Enfin, voilà, quoi. Que c'est pas exemplaire comme jeu, quoi.
Oui.
Bah, c'est souvent dans ces jeux-là où je trouve il y a des trucs d'autoritarisme dans les jeux de coop où en fait il y a vite des personnes qui veulent prendre le pouvoir sur d'autres et donner des ordres aux autres ou des trucs comme ça. Et bah moi je trouve, enfin je trouve en plus quand t'es dans l'émulation du jeu, enfin moi je trouve, je capte en fait que ces trucs-là ils arrivent, mais je trouve ce qui est intéressant c'est d'apprendre à comment on fait ensemble pour que ça arrive plus. Et comment on fait pour quand même être dans la stimulation du jeu, l'excitation et tout du jeu, et à la fois se laisser de la place entre nous et tout.
Oui, il le dit très bien, je trouve, dedans en Runi, que voilà, c'est les jeux coopératifs, hein, c'est exactement ce qu'on venait de dire, du coup je vais juste répéter. ils sont pas si coopératifs que ça, et que c'est pas donné, en fait, de dire bon, ben, on joue ensemble vers un but commun. Oui, non, mais en fait, la place, enfin, les jeux, en tout cas comme c'est proposé par Runiem, et certainement dans les jeux de rôle, mais je connais moins, c'est aussi un espace pour, ok, on discute là, comment on va faire ensemble, et c'est pas juste on a un objectif commun, mais laisser la place à chacun, chacune.
Peut-être, et c'est pas du tout impossible, en ouais. plus.
Peut-être on passe à...
On va passer du coup une petite virgule musicale. C'est un son que nous ont envoyé du coup Runi et M, qui sont interviewés dans les montages qu'on vous propose. Ça s'appelle Rosie de Dart d'Auteur. Je pense que j'espère le dire bien. C'est un groupe ukrainien formé par 7 musiciennes, comédiennes et chanteuses ukrainiennes. Elles sont donc ukrainiennes. La chanson qu'on vous passe est l'adaptation d'un sonnet de Shakespeare. Et après, on enchaîne sur un deuxième montage qui va traiter des représentations autour du jeu. Comment on se les approprie, on se le réapproprie, on s'en détache ou on les sublime. Voilà.
No more be grieved. At that which has done, roses have thorns and silver fountains mud. Clouds and eclipse stay both moon and sun. And loathsome can care less and sweet as bud. No more be grieved at that which has done. Roses have thorns and silver fountains mud.
Accepte des fois que je fasse des choses un peu, ouais, qui sortent un peu de l'ordinaire, justement, du carcan, du jeu de rôle assez, assez misogyne et ce genre de choses. Mais sinon, après, toi, ça t'empêche pas de faire ton personnage comme tu le sens. Hein. Après, faut voir justement avec le maître du jeu s'il est plus ou moins en accord et quoi que ce soit. Mais sinon, tu tomberas rarement, en fait, sur des gens qui, de base, proposeront en fait des trucs hyper LGBT friendly, quoi.
Bah après oui, c'est un peu dur de trouver des jeux où il y a rien du tout qui pose problème, enfin, j'ai l'impression. Ça donne envie, enfin, d'essayer de créer d'autres imaginaires, d'autres cartes, d'autres représentations sur les cartes, par exemple des personnages ou enfin je sais pas, mettre des animaux plutôt que, enfin, j'en sais rien, enfin il y a plein de choses à imaginer. Mais c'est du taf. Et du coup, on s'était dit un jour, on pourrait organiser une après-midi, customiser ton jeu et tout ça. Et c'est déjà des choses qui ont été déjà discutées lors d'après-midi ou soirée jeu au bocal. Faire d'autres dessins.
Je suis une grande fan, en fait, de jeux indépendants parce que ce sont des jeux où les gens se permettent de tester des choses. et des systèmes de jeu, justement, on en parlait aussi, tu vois, pour le jeu de rôle, mais pour le jeu de vidéo, c'est un petit peu la même chose, tu vois, des systèmes de jeu qui sont différents, qui permettent justement d'avoir une certaine créativité. Il y a énormément de créativité, justement, dans les jeux indépendants aujourd'hui.
Il y a un autre jeu qui s'appelle Kariba. Alors c'est pas, on n'a pas customisé, mais on a changé l'histoire. Enfin l'histoire dans le sens où les personnes avec qui j'ai joué, dans la petite description, c'est marqué il faut capturer des animaux. Et du coup on a beaucoup discuté. Ah mais pourquoi capturer? On pourrait les libérer. Du coup, enfin bon bref. Du coup après on a genre changé aussi le vocabulaire de comment on parlait de nos actions dans le jeu, quoi. Et du coup, on capturait plus les animaux, mais on les libérait. Même si on était tous les uns les unes contre les autres, c'était la personne qui libérait le plus d'animaux plutôt qu'il les capturait, quoi. Enfin, ou des trucs comme ça, enfin, par exemple. Et aussi, une fois, il y a une personne qui est venue avec un jeu qui s'appelle Profiler. Et comme les cartes étaient... En fait, t'as des cartes et dessus, t'as écrit des personnages, comme, j'en sais rien... des personnages connus, genre un millionnaire, c'est pas connu ça,
mais il y avait ça aussi.
Mais il y avait ça aussi. Genre, je sais pas, Johnny Hallyday, et puis avec d'autres, enfin, ou je sais pas,
astronautes,
enfin, ouais, voilà. Et donc, en fait, les genre, personnages avec des métiers ou des caractéristiques spécifiques, comme genre un millionnaire, bah, c'était genré au masculin, par exemple. Et du coup, il y a eu un peu pendant cette partie de jeu. On avait un marqueur et on rajoutait, on féminisait, enfin, on faisait, une écriture inclusive. Donc ça fait que bah, le jeu de cartes maintenant de cette personne bah, a été directement en live remanié, quoi. Enfin, et du coup, enfin voilà. Donc je pense que ce jeu-là dont tu nous as parlé, là, Blanc Manger Coco, c'est sûr que c'est un truc... Enfin, dès que c'est sorti, ça nous a sauté aux yeux que c'était même pas possible que ça puisse être dans notre mallette de jeu, quoi. Moi j'aime bien à chaque fois de temps en temps de mettre un petit truc un peu queer dans mes persos, tu vois. Par exemple, le Freelance c'était un personnage asexué.
Ouais.
Et du coup, c'est hyper sympa aussi de jouer un personnage asexué. Bon, j'ai souvent des personnages féminins qui sont Gwyn. Mmh.
Pardon ?
Ouais, bon, ça, bon, c'est mon petit. Bah, après, t'es pas obligé de le dire, t'es pas obligé de le jouer, t'es pas obligé de. Qu'il y ait vraiment une incidence après sur le scénar. Mmh. Mais toi, tu le sais, simplement.
J'adore.
Ou des personnages qui sont pans, ou des trucs comme ça. Enfin, tu fais ce que tu veux après dans le jeu de rôle, et toi, comment toi, tu vois ton personnage. C'est tout. Enfin, voilà. C'est pas plus... Et puis du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir, si tu veux, une intention particulière avec ce personnage, un lien avec ce personnage, parce que c'est moi qui l'ai créé. Parce que d'une certaine manière, c'est un peu une représentation de moi. Les gens avec qui j'ai l'habitude de jouer, c'est le fait que je sois une meuf, ça change rien. Parce que les personnages, c'est toi qui leur donnes un genre. Ça m'arrive de jouer un mec. Ça m'arrive parfois de jouer des personnages qui sont un peu non-binaires. Et les gens avec qui je joue, ça leur arrive aussi de jouer des meufs, même si c'est, la plupart du temps c'est que des mecs. Donc qu'est-ce que ça fait en fait que je sois une meuf et que je joue principalement en fait avec des mecs cis? Enfin, tu vois, vu que c'est des univers où quasiment tout est permis, c'est toi qui fais en fait ton personnage, c'est toi qui fais ton monde. Et si tu joues avec des gens qui sont justement, qui sont pas fermés, qui sont pas des gros misogynes, des oh, moi je veux des mecs et tout, bah ça change rien, j'ai envie de dire, dans ce genre de bulle justement un peu protégée, où tu peux faire ce que tu veux et être qui tu veux.
t'es pas du tout assigné à un genre quand t'arrives autour d'une table. Enfin, en tout cas, moi, c'est... Bah, après aussi, il faut dire que... Enfin, bref. Tu vois, on va pas direct m'assigner en tant que meuf quand j'arrive autour d'une table, quoi. Et du coup, enfin, les gens sont hyper ouverts la plupart du temps pour dire « Ok, tu veux jouer quoi ?» Même dans les communautés LGBT, hein, les gens sont pas forcément très accueillants vis-à-vis justement de ce genre de choses, quoi. Et ouais, enfin, t'as vraiment l'impression que, bah, du coup, quand tu joues au jeu de rôle, t'es misogyne, t'es pas du tout féministe, t'es complètement renfermé sur toi-même, tu vis dans ta chambre. Tu vois, ce genre de cliché, tu vois, qui peut faire hyper mal. Et c'est à peu près les mêmes, justement, quand tu dis je joue aux jeux vidéo. Ouais, c'est pas quelque chose que... Enfin, tu vois, c'est limite un coming out, quand même. Hein. Ça dépend face à qui t'es, quoi. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à en parler, tu vois, un peu autour de moi, par exemple, dans ma vie professionnelle. Parce que... Enfin, j'en reviens justement au cliché, là, dont je parlais un petit peu avec les jeux vidéo. C'est que... Et en fait, ça existe aussi sur les jeux de rôle. Ce que moi, j'ignorais, en fait, à l'époque, parce que je suis quand même quelqu'un de... Je suis une grosse geek. Donc moi, j'adore tout ce qui est ce genre de choses, mais j'ai jamais vraiment ressenti, en fait, les clichés qu'il y avait sur les gens qui faisaient du jeu de rôle. Mais en fait, ça existe. Ouais. Ça existe de dire qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas de vie, qui sont souvent... Enfin, le cliché du jeu de rôle, c'est t'as un gros métalleux, enfin, un mec cis, forcément, hein. T'as les cheveux longs et gras, et t'as une barbe et des boutons, quoi. J'ai vraiment cette image-là, parce que ça m'est arrivé vraiment de dire que... Mais dans une conversation, mais qui était vraiment... qui venait de nulle part, et à un moment donné, dire « Ouais, c'est comme les mecs qui font du jeu de rôle, quoi. » Enfin, dans une conversation où, je sais pas, on parlait de misogynie ou je sais pas quoi, et puis pour rigoler, il y avait une meuf qui a dit « ça, c'est comme les mecs qui font du jeu de rôle. » Mais moi, j'avais pas encore fait mon coming out, genre je suis rôliste. Enfin, cette meuf-là, je lui en veux pas du tout. Enfin, au contraire, ça a permis après de dire « Bah ouais, bah justement, moi je suis rôliste, tiens, ça tombe bien. » Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, et je lui ai offert d'ailleurs un jeu de rôle après. Un kit d'initiation à Donjons et Dragons, je crois. Je sais plus très bien. Ou Héros et Dragons, je crois, plutôt. Le kit d'initiation. Je sais pas si elle y a joué et tout, bazar, mais du coup, enfin, ouais, juste de dire... Bah écoute, non, enfin, c'est pareil, c'est des clichés. C'est pas le cas de tout le monde, quoi.
Vous êtes toujours dans la revanche des hérissons sur JTFM 91.2. On vient d'écouter du coup un montage sur les représentations qu'il peut y avoir dans les jeux, notamment tout ce qui est ça peut être vecteur d'oppression et de vision du monde dégueu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de genre customiser des jeux ou faire en sorte que ça soit un peu moins dégueu quand vous y jouez?
Oui, je l'ai fait la semaine dernière. Je jouais à Codename, c'est un jeu avec des mots et il y a des cartes... Quelqu'un veut intervenir? Non, il y a des mots avec des cartes... Ah oui, non, d'accord, oui, c'est parce que je ne parle pas en face du micro. Je vais y arriver. Il y a des mots avec des cartes. Non, il y a des cartes avec des mots et il y a des genres de personnages. Et du coup, il y a une face où c'est une meuf cis et de l'autre côté, c'est un mec cis. Et ils ont des têtes de... Je ne sais pas... Vous savez, la BD 13, là, ils ont des têtes de
voilà, d'agents secrets.
Badass, agents secrets, merci.
J'allais dire de keuf, mais ouais.
C'est... Ouais, de keuf. Et du coup, le type, là, il y a une copine, Zéana, ouais, je joue pas avec les types. Donc, on n'avait pas le choix. Là, à ce moment-là, on n'avait pas le choix. Donc, je lui ai juste dessiné une boucle d'oreille. Et voilà, je trouvais que ça changeait tout. Mais une longue boucle d'oreille. Enfin, un truc un peu. C'est pas une longue boucle d'oreille, quoi. Une vraie. Enfin, bref, voilà, j'ai fait ça.
Moi, je sais que du coup, quand je vais reparler de ce jeu, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pandémie, et en fait, il y a des petits pions. Il y a des pions jaunes, rouges, bleus et noirs. Et ça a créé plusieurs fois, quand on parlait. Donc du coup, le but, c'est d'éradiquer les maladies qui correspondent à des couleurs. Et du coup, ça crée des trucs genre... Faux. faut éradiquer les Noirs. Et bon, étant une personne racisée, on n'était pas d'accord au bout d'un moment. Et donc, du coup, on s'est fixé cette règle de les Noirs, c'est les pions noirs sont gris, les pions jaunes sont dorés, les bleus, c'est des bleus. Et les rouges, des fois on dit c'est des rubis, mais souvent on dit c'est des rouges quand même. Voilà. Et depuis maintenant, à chaque fois que je joue à ce jeu, quand j'explique le jeu, j'adore expliquer ce jeu aussi. Quand j'explique le jeu, du coup, c'est quelque chose que je mets en place. Je dis voilà, ça c'est pas des noirs, ça c'est des gris, ça se fait. Voilà. Du coup, voilà.
Et il y a aussi le jeu standard là, de jeu de cartes quoi, avec des points, donc censément l'as il est super fort, ensuite il y a le roi, la reine, le cavalier, le valet, et du coup on a une copine qui, enfin moi c'est une copine qui m'a appris à faire ça, je n'y avais pas pensé avant toute seule. C'est de donner tous les points à la reine ou le maximum et de éventuellement d'ailleurs c'est pas la reine dans le vrai jeu, c'est le roi, la dame, du coup récemment on a changé, on a dit que c'était d'abord la reine qui avait le plus de points, ensuite le monsieur et non pas le roi. Et puis éventuellement le valet, on pourrait le renommer, mais le valet avait aussi pas mal de points, plus que d'habitude, voilà. Mais c'est une chose qu'on peut faire de manière systématique.
C'est cool, c'est vrai, j'y ai pas pensé.
Et peut-être avant de lancer un deuxième, ouais, si on va lancer directement le dernier montage, peut-être, c'est ça. Ouais, on n'aura pas le temps de discuter, mais il y a plein de choses à dire dans ce qui vient d'être dit. Donc, on va écouter un dernier montage qui est toujours l'interview de trois personnes qu'on a aimé entendre sur les jeux. Et cette fois-ci, ce dernier montage nous parle de comment est-ce que les jeux nous aident à glisser en société, ou plutôt on a appelé le jeu comme un lubrifiant social.
Tu veux jouer à des jeux ?
Ouais, ah, j'aimerais bien.
T'as un entretien d'embauche ?
Ouais.
Où il faut justement que tu aies de la prestance, il faut que tu aies du charisme, il faut que tu saches te vendre. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas facile, hein, on est d'accord, hein. Quand tu te retrouves et t'as juste envie de te faire pipi dessus, là. Bah ouais, mais en fait, le jeu de rôle, ça te permet aussi, justement, de pouvoir mimer ce genre de choses via le jeu, via vraiment une pratique ludique, et de pouvoir le réutiliser, justement, quand tu es face à une situation qui est hyper stressante, de dire, ok, de respirer, de dire, ok, de pouvoir improviser au niveau des questions, au niveau de ce genre de choses. Enfin, moi, je sais que ça m'aide énormément grâce à ça, quoi. D'incarner, en fait, un personnage. Où t'es complètement, voilà, dans un autre univers, t'es une autre personne, et ça te permet justement de faire des choses. Le jeu de rôle, c'est exactement pareil. Ça te permet de parler. Ça te permet de t'exprimer, d'avoir potentiellement une prestance que t'as pas d'habitude.
C'est que du coup il y a déjà des espaces de jeu qui existent dans la ville en général, ou même dans des espaces publics ou comme les festivals, etc. Mais comme plein d'autres milieux, ben c'est soit très familial, de la famille hétéro-patriarcale, soit beaucoup des jeux très longs de stratégie, par exemple. On voit quand même très vite c'est en non-mixité, mec, cis, hétéro, très rapidement, et que du coup, bah, ça, j'ai l'impression que ça nous saoulait, comme on dirait.
Ouais, et puis quand le bocal était ouvert, on était ensemble sur la création du lieu, du coup aussi, c'est un espace qui est disponible, où il y a de la place, où on pouvait quand même accueillir une vingtaine de personnes pour jouer, par exemple. Et avec cette volonté, en tout cas, moi, mais je pense aussi, je m'avance en disant ça, mais qu'il y avait cette volonté aussi de faire découvrir qu'est-ce que c'était le bocal à travers les jeux, et que c'était une porte d'entrée plus facile pour venir découvrir qu'est-ce que c'était que le bocal, quoi. Parce que t'as moins de mise en jeu, enfin, je trouve, qu'il y a moins de mise en jeu de soi quand tu viens pour jouer à des jeux, que quand tu viens à une réunion, une discussion
ou je sais pas, où il y a une thématique politique, enfin une thématique spécifique avec où tu sais que le lieu il est politisé, qu'il y a féministe et puis il y a queer et puis blablabla. Bah là en fait oui, il y a les mêmes mots mais tu viens jouer quoi, et du coup je trouve que ça fait pas la même chose. De comment dire, rencontrer de nouvelles personnes, notamment quand tu arrives à Rennes quoi, enfin je trouve que c'est un bon espace de rencontre, un bon espace de convivialité, enfin un bon espace de de faire un peu du lien quoi, enfin entre les gens quoi.
Carrément,
sans pression de devoir prouver je sais pas quoi, enfin ta super carte de militant quoi.
Ça permet aussi justement de sortir un peu de ta carapace d'une certaine manière pour des gens qui sont hyper introvertis dans mon style quoi, pour être juste un petit peu plus pétillant si tu veux à l'extérieur, bah justement de sortir de sa carapace c'est dur. Donc soit tu peux effectivement essayer de prendre sur toi-même et forcer et tout, ou alors tu fais juste du jeu de rôle et bah du coup une fois que t'as joué par exemple un barde qui est censé justement chanter une chanson et parler devant l'assemblée, et, ou alors, je sais pas, justement, un général qui est censé motiver ses troupes pour partir à la bataille ou ce genre de choses, bah, forcément, ça t'aide après dans la vraie vie à faire le même style de truc, même si, bon, t'es pas censé être un général qui motive des troupes pour aller à la bataille, mais enfin, tu vois un petit peu le principe, quoi, juste d'avoir des mécanismes et, que tu peux réutiliser après dans la vraie vie, ouais.
En fait, ça permet d'arriver dans un espace et que c'est beaucoup plus simple de s'y intégrer après quoi. J'ai l'impression que les soirées jeux, les après-midi jeux, elles amènent quand même des gens au bocal et ou à déconstruire, parce que c'est un espace qui est partagé entre deux associations et il y a les plannings du coup, enfin j'en sais rien en fait, je vais pas vérifier après tu vois, parce que en plus je suis plus au bocal du coup je sais pas, et je sais pas s'il y a des gens qui ça fait des ponts, si les gens viennent que aux soirées jeux et c'est tout, ou enfin je sais pas trop ça, mais en tout cas, ça fait que t'as mis un pied dans un espace, que tu t'es senti, j'espère, pas trop mal et pas trop une merde, et que t'es ressorti en étant plutôt content, et bon, ouais, c'est un peu ce que tu disais, quoi.
Oui, c'est ça, parce que à l'époque où on a commencé à organiser les soirées après le jeu, on était les seuls à occuper les lieux, et après coup, il y a une autre association qui a aussi occupé l'espace de manière plus présente, enfin comment dire, plus intensive quoi. Et du coup, c'est l'association Déconstruire. Du coup, ça fait qu'aussi, effectivement, ça faisait des trucs de faire des ponts aussi entre les deux assos, enfin d'être un endroit où bah ça permettait à plus de se rencontrer quoi. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui étaient déjà passées à Déconstruire qui sont venues à la soirée jeu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans les différences enfin, pour le coup, même si ça fait pas évidence pour tout le monde, je sais pas, des trucs qui seraient problématiques dans les jeux, bah, ça n'empêche que dans la semaine jeu et aux soirées ou après jeu au bocal, y a un peu une espèce de, comment dire, enfin pas vigilance, mais il y a un peu un truc de... Si une personne va pointer quelque chose qui est problématique ou que ça l'interroge et tout, il va y avoir de la discussion.
Enfin, allez-y, quoi, jouez. Il n'y a rien de mieux, justement, il n'y a rien de mieux qui peut te faire... Enfin, au niveau du moral, ça fait tellement du bien, genre, de sortir de ton quotidien et d'avoir une pratique où tu découvres des choses, seul ou pas, hein. Après, hein, parce que le jeu de rôle, certes, c'est quand même mieux quand t'es à plusieurs, mais le jeu vidéo, par exemple, tu peux le faire toute seule... Il n'y a vraiment aucun souci. Enfin, il y a des jeux de plateau aussi qui peuvent se jouer seuls. D'ailleurs, on n'a pas parlé de jeux de plateau, mais c'est aussi... Mais ouais, enfin, ça fait tellement du bien. Juste jouer. Quel que soit votre style de jeu, quoi. Ou même si c'est pas votre style, juste tester, en fait, avec des gens qui sont prêts, en fait, à vous montrer que ça peut être juste une super pratique et que ça peut vous apporter des choses dans votre vie. Au-delà juste de passer une bonne journée, une bonne soirée, que ça peut juste en fait vous donner des petits éclats dans les yeux et que au final vous sortez de là avec la banane, avec juste l'envie d'y revenir quoi. Jouez.
C'est la revanche des hérissons. 91.2 sur Jet FM à Nantes. Du coup, on vient d'écouter le dernier montage qu'on avait fait autour des jeux comme lubrifiant social. Moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'aime jouer. C'est que c'est dit dans l'interview, c'est que il y a moins de mise en jeu de soi. Super jeu de mots. Il y a moins de mise en jeu de soi et ça permet de découvrir les personnes qu'on connaît peu ou pas à travers un autre prisme. En fait, on se marre en fait et ça dit beaucoup de nous, de ce qu'on apporte dans le jeu et de comment on joue et du coup, des autres aussi. Il y a des personnes que moi j'ai rencontrées en jouant et je me dis, vu la façon dont elle joue, cette personne est une paillette, quoi.
Carrément. Et que c'est plus simple aussi, c'est ce que tu disais, pour avoir des premières interactions avec des gens, par exemple des potes de potes dans une soirée où tu connais pas trop les gens ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Faire un jeu, en fait, ça fait que tu n'es pas là à dire « Ah, salut, et tu t'appelles comment ? Et tu fais quoi dans la vie ?» en fait, là, tu as un espèce de support sur lequel discuter ensemble et ça permet de se parler plus facilement, je trouve. Mmh. Et aussi, je trouve dans les groupes ou dans les collectifs, ça me faisait écho là, quand dans l'interview, elle disait ça permet peut-être aux gens de venir plus au bocal et tout, plutôt qu'une réunion ou un truc comme ça. Mais je trouve même dans les réunions, dans un collectif par exemple, de faire des jeux pour soit apprendre à se connaître ou apprendre à se faire confiance, pour communiquer et s'organiser ensemble et de passer par des trucs de jeu pour faire ça. Ça marche bien aussi, c'est chouette.
Mais tellement. Là, c'est marrant parce que vous êtes plusieurs ici en studio Grand Technique que j'ai rencontré autour des jeux où j'ai voulu jouer pour savoir qui vous étiez. C'est quoi la phrase déjà, dis-moi comment tu joues. Tu dis, bref, bon, peu importe, on s'en fout. Mais oui, et ça permet de lier contact, de dépasser aussi des trucs aussi bêtes que... Enfin, pas aussi bêtes, mais voilà, j'ai une anecdote ici. Lors de la semaine jeu que j'ai eu la chance de faire avec Runi, M et d'autres, on jouait tout le temps. Et des choix qui sont à... Des petits choix qui sont à faire, on les a transformés en jeu. Des choses qui... moi, pourrais me poser problème, oui. Des petites choses peuvent me poser problème, comme savoir qui est-ce qui va prendre une douche en premier. Voilà. Non, dans la vie réelle, je serais, non, mais vas-y, j'en ai pas besoin, ou excuse-moi, ou désolé. Là, avec la personne avec qui on se battait pour aller à la douche, eh ben, on a fait un shifumi. J'ai gagné, j'y suis allée me doucher. C'est pas parce que j'étais la plus sale, ou la plus gentille, ou la plus meuf à signer. Non, juste, j'ai gagné au shifumi. Et je pense que le shifumi peut permettre de dépasser beaucoup de situation. Il y a des choses sur lesquelles je voulais revenir aussi dans cette partie-là. Donc, on a parlé du shifumi. en fait, je voulais revenir sur la partie d'avant. Aussi pour dire que enfin, on a déjà parlé un petit peu ensemble. Le jeu, c'est pas non plus magique, quoi. C'est pas. Il y a un moment, dans l'interview qu'on entend Claire qui dit que c'est parfois le jeu, c'est une bulle protégée. Je suis pas tout le temps d'accord, en fait. Ça dépend. Désolé, Claire. Mais ça dépend quel jeu. Enfin, par exemple, si on met Blanc Manger Coco, je suis pas dans une bulle.
Voix Blanc Manger Coco.
Si on met Blanc Manger Coco,
on te brûle.
Ouais. En fait, le brûler, ça serait la même. Ouais. Moi, je l'ai mis à la poubelle. Je l'avais déjà dit dans la première émission. Je l'ai mis à la poubelle, oui, parce que je l'ai eu entre les mains. Bref. Mais ouais, ça dépend quel jeu et ça dépend qu'est-ce qu'on met en place, quel système de jeu on en parlait, ou plutôt quels univers de jeu on qu'est-ce qu'on met en place autour et ce que propose M et Runi dans leur soirée et après-midi jeu, je trouve ça super chouette et je voulais vous lire le texte d'introduction qu'ils partagent. Je vais y arriver pour inviter à venir au bocal. Alors, ils disent « Comment on aimerait que ça se passe ? On aimerait prendre du plaisir à jouer sans rabaisser les autres, parce qu'on gagne ou qu'on perd, par exemple. On aimerait créer des ambiances de jeu où on s'écoute les unes les autres, où c'est possible d'être dans la compétition consentie, où c'est possible de tricher, de revoir les règles ou de les suivre à la lettre, où c'est possible de compter les points ou pas du tout. Assure-toi que c'est OK avec tes partenaires de jeu. » On aimerait, ça fait penser au consentement. On aimerait jouer à des jeux qui ne reproduisent pas la guerre, la colonisation, la famille cis-hétéronormée et patriarcale, les stéréotypes sexistes, racistes, agistes, validistes, grossophobes. Et que si ça nous échappe, c'est possible d'agir dessus. Barrer une phrase, fabriquer un nouveau personnage, changer l'univers. Et pourquoi pas des ateliers de customisation de ton jeu. Yael précise, aussi on voudrait rappeler qu'il est important pour nous de ne pas présupposer du genre des personnes présentes. Demandez-leur et n'hésite pas, pendant le séjour, ou l'après-midi, à casser l'ambiance si un truc ne va pas pour qu'on en discute si besoin. Enfin, ce texte, pour moi, il est chouette, limpide et enfin, je l'aime bien.
C'est carrément canon. Ça donne envie de venir jouer et enfin, justement dans ce process de lubrifiant social. Enfin, là c'est ça glisse, quoi.
Alors, d'ailleurs, on va lancer une musique. Non, c'est tranquille, non, la musique? Non, c'est pas tranquille? C'est pas 17h50, la musique? Non, c'est 17h50. Bon, on va donc lancer la musique. En technique, on nous demande de faire ça. C'est donc le morceau Blind de... Je retrouve ma petite fiche. Je l'ai perdu. Là. De Hercule... Hercules and Love Affair est le morceau de date de 2008 et a permis de fonder le groupe. Il a été écrit en partie par Anony, qui en est aussi la chanteuse. Bonne écoute. My past and future painfully clear.
La revanche des hérissons.
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Alors du coup, dans ce coup de cœur, je voulais vous parler de deux jeux un peu queer et féministes qui m'ont bien plu. Faut savoir que chacun de ces jeux coûte à peu près aux alentours de 20 balles, mais en fait c'est super facile de se les fabriquer chez soi pour gratuit. Alors le premier, ça s'appelle Bad Bitches Only, et en gros c'est un genre de Time's Up avec que des noms de meufs ou de personnes queer à deviner. En fait, il y a un temps limité où tu dois faire deviner un maximum de personnages à ton équipe en disant tout ce que tu veux, sauf c'est la sœur de, la femme de, la fille de. Et c'est pas si facile parce que parfois c'est malheureusement ce qui nous vient en premier. Par exemple, c'est quoi le premier truc qui nous vient pour faire deviner Assa Traoré ?
La sœur de.
Voilà. Du coup, en fait, il y a des trucs où on se rend compte qu'on a vraiment ses réflexes et je trouve ça cool de pouvoir déconstruire ça. Et ensuite, du coup, il y a une deuxième manche où on refait deviner les mêmes personnages, mais avec un seul mot. Puis une troisième où on fait deviner toujours les mêmes personnages, soit en mimant ou soit en dessinant. Et le jeu édité est assez chouette parce qu'il y a des personnes vraiment de différents endroits du monde. Il y a des stars, des scientifiques, des activistes, enfin plein de personnes différentes. Et avec, il y a un livret qui t'explique qui sont les personnes. Comme ça, après, tu connais encore plus de meufs et de personnes queer super badass et tu peux te la péter en soirée. Mais en fait, on peut aussi jouer chez nous en mettant des noms sur des petits papiers. Et s'il y a des gens qu'on ne sait pas qui c'est, ben, c'est notre copaine qui l'a écrit qui peut nous expliquer. Et ça, c'est quand même plus cool que de lire un livret. Et le deuxième jeu dont je voulais vous parler, ça s'appelle C'est pas tabou. Et là, c'est un jeu qui est inspiré du tabou, mais qui permet de causer de relations, de cul, d'identité, de corps et tout ça, tout ça. En fait, il y a des cartes et il faut faire deviner des mots aux autres sans utiliser certains mots. Par exemple, il faut faire deviner digue dentaire sans avoir le droit de dire anulingus, IST, protection, cunilagus, ni latex. Et du coup, peut-être on peut revoir les règles parce que quand on peut pas dire, par exemple, vulve ou pénis, on connaît quand même des tas d'autres mots pour dire ça. Donc peut-être on peut se dire aussi que tous les synonymes, on peut pas trop les dire. Enfin, on se met bien d'accord sur les règles qu'on veut avec les personnes avec qui on joue. Et pareil, ce jeu-là, on peut se le faire tranquille à la maison, par exemple, en disant que chaque joueuse écrit, par exemple, 5 cartes avec un mot à faire deviner et en dessous, 5 mots interdits. Et pour le coup, je pense que le jeu édité a été plutôt pensé dans un but un peu éducatif pour faire causer de ces sujets avec par exemple des ados ou... Du coup, il y a des trucs un peu glauques dedans à faire deviner comme inceste, viol ou féminicide ou des trucs comme ça qui sont pas hyper fun dans un jeu. Donc vraiment, c'est sûr, celui qu'on va se fabriquer à la maison, il va mieux nous plaire. Et même si on garde les petits papiers à chaque fois qu'on y joue avec des nouvelles personnes, et ben à la fin, on aura un jeu tout prêt et super gros. Et comme ça, on se rappellera pas forcément des mots d'une fois sur l'autre. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous kifferez et que vous passerez des chouettes moments à jouer avec des chouettes personnes.
La revanche des hérissons.
Agenda.
Agenda.
Alors le timing est serré, on va passer à l'agenda. Le 29 et le 30 novembre prochain, c'était pour rappeler qu'il y a, il y a 7 matons de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui vont passer en procès parce qu'en fait ils vont être jugés pour leur responsabilité dans la mort de Sambali Diabaté, qui était un détenu de la prison de Saint-Martin-de-Ré, qui est décédé au cours d'un transfert à l'intérieur de l'enceinte en août 2016 et dont les circonstances de la mort sont douteuses. J'ai pas le temps de vous lire le tract d'appel, mais en tout cas le procès c'est le 29 et le 30 à La Rochelle et il y a une soirée qui va être organisée au 17 bis rue Paul Bellamy le 10 novembre pour justement où il y aura des membres de sa famille qui vont revenir sur les circonstances de sa mort et appeler à venir rejoindre, à venir en soutien en fait lors de ce passage au tribunal. Et dans la même soirée, il va y avoir aussi le journal L'Envolée, qui est une émission anticarcérale de Paris,
qui va présenter un livre qui s'appelle « La peine de mort n'a jamais été abolie ». Toujours donc en novembre, il y a des ateliers qui sont organisés. Vous pouvez retrouver les ateliers sur le site de la Trousse à outils, la TAO, sur leur Facebook. C'est des ateliers de vannerie, de menuiserie, de soudure. Il y a peu de place et du coup, ça vaut le coup de s'inscrire assez vite. Il y a des deadlines. Toujours en novembre, il y a une manifestation qui va être organisée le 27 novembre à 15h15, Place Royale. C'est une manifestation contre les violences faites aux personnes sexisées. Vous pouvez retrouver l'appel sur Démosphère. J'ai pas le temps de vous le dire ici. On va terminer l'émission. Et juste pour vous dire, il y a la permanence des dévoreuses de la bibliothèque féministe. C'est le 1er décembre à Pollen.
Et peut-être on peut juste redire que les ateliers menuiserie, vannerie, tout ça, c'est juste partagé sur le Facebook de la Trousse à outils, mais c'est organisé par le fil.
Excuse-moi, oui, j'ai pas eu le temps de le mentionner.
Pas de souci.
Et c'est au frigo.
On se quitte ?
Salut.
Ah, attendez, j'allume vos micros quand même. On va se dire au revoir. Allez, un au revoir dynamique.
Salut.
Salut, salut.
Salut.
C'était La Revanche des Hérissons sur Jet FM 91.2.